France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'accueille François Leroux qui incarne depuis 40 ans la belle tradition des barytons français à la frontière subtile de la musique et de la poésie. La parution d'un disque et d'un livre nous invite à revenir avec lui sur cet art si particulier en compagnie de Berlioz, Messager, Offenbach ou encore les frères Jacques. On retrouve François Leroux dans quelques minutes. Mais puisque France Musique cette semaine est à l'heure britannique, écoutez l'accent so British de Noël Coward qui nous parle de chiens fous et de messieurs. Messieurs anglais.
In tropical climes there are certain times of day when all the citizens retire to take their clothes off and perspire. It's one of those rules the greatest fools obey, because the sun is far too sultry and one must avoid its ultraviolet ray. The natives grieve when the white men leave their huts, because they're obviously, definitely nuts. Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. The Japanese don't care to, the Chinese wouldn't dare to. Hindus and Argentines sleep firmly from 12 to 1, but Englishmen detest a siesta. In the Philippines they have lovely screens to protect you from the glare. In the Malay states there are hats like plates which the Britishers won't wear. At 12 noon the natives swoon and no further work is done, but mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. It's such a surprise for the eastern eyes to see that though the English are effete, they're quite impervious to heat. When the white man rides, every native hides in glee, because the simple creatures hope he will impale his soul a topi on a tree. It seems such a shame when the English claim the earth that they give rise to such hilarity and mirth. Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. The toughest Burmese bandit can never understand it. In Rangoon, the heat of noon is just what the natives shun. They put the Scotch or rye down and lie down. In a jungle town where the sun beats down to the rage of man and beast, the English garb of the English Saab merely gets a bit more creased. In Bangkok, at 12 o'clock, they foam at the mouth and run. But mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. The smallest Malay rabbit deplores its foolish habit. In Hong Kong, they strike a gong and fire off a noonday gun to reprimand each inmate who's in late. In the mangrove swamps where the python romps, there is peace from 12 to 2. Even caribous lie around and snooze, for there's nothing else to do. In Bengal, to move at all is seldom, if ever, done. But mad dogs and Englishmen go out in the midday, 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 out in the midday sun.
La spécificité britannique étudiée donc ici par Noël Coward en 1932. Noël Coward, dont je rappelle qu'il était un peu le Sacha Guitry anglais et en même temps, on pourrait dire le Reynaldo Hahn, puisqu'il était à la fois auteur mais aussi compositeur. Il a enregistré de nombreuses plages. On le connaît trop mal en France et pourtant il était aussi très francophile. Noël Coward, on en reparle donc à l'occasion de ce week-end anglais de France Musique. Et j'en profite pour rappeler que l'Angleterre, c'est aussi un grand pays de la musique légère. J'y reviendrai en fin d'émission, mais je vous propose d'écouter, avant de retrouver François Leroux, cet extraordinaire organiste qui s'appelait Reginald Dixon dans ce morceau intitulé « Fantaisie de la jungle ».
Thank you.
fantaisie de la jungle sur l'orgue Wurlitzer de la tour de Blackpool par Reginald Dixon, un enregistrement de 1951.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et on retrouvera donc l'Angleterre en fin d'émission, mais pour l'instant il est temps d'accueillir mon invité. Vous l'avez tous applaudi ou écouté dans un très vaste répertoire qui va de l'opéra à l'opérette, de Mozart à Offenbach en passant par Debussy, et puis aussi dans toutes ces mélodies françaises qu'il a si merveilleusement interprétées, les connues, les moins connues. Il vient de sortir un livre sur l'opéra français justement, ainsi qu'un disque de mélodies et mélodrames. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin François Leroux. Bonjour François Leroux.
Bonjour Benoît.
Voilà ce qu'on appelle un mélodrame. Alors, faut peut-être expliquer aux auditeurs qu'ils ne savent pas tous que mélodrame, ça ne veut pas dire forcément quelque chose de dramatique dans le sens sombre du terme. C'est un genre très précis. Hein.
Oui, c'était un genre qui a été vraisemblablement inspiré aux acteurs qui en avaient assez de voir que la poésie était exclusivement mise en musique pour être chantée et qui, eux, voulaient la dire en public, mais avec de la musique pour soutenir. Voilà. Et donc, celui qui a le plus fait pour ce genre en France, c'est Léon Brémond, qui était un acteur de la troupe de Sarah Bernhardt. Oui. Et comme il connaissait un certain nombre de compositeurs, eh ben, il en a commandé beaucoup. Alors, ce qui est très intéressant, comme celui que nous venons d'entendre.
De Francis Thomé, voilà. Hein, le compositeur.
Voilà. Francis Thomé, qui a vraiment en a fait, mais une énorme quantité.
Ici, sur un texte de François Copé.
C'est voilà. Ça. Et ce petit poème, d'ailleurs, a été mis en musique en tant que mélodie beaucoup. Mais, ce qui est intéressant, c'est que Léon Brémond, il a mis des petites flèches sur la partition où il faut absolument que la syllabe tombe sur la note. Donc, ah oui. C'est un vrai travail de mise en place, c'est pas je fais comme je veux. Et...
Ah oui, c'est pas j'improvise mon texte sur fond musical, quoi.
Non.
C'est très précis.
C'est précis.
Voilà, et c'est un genre que vous avez donc voulu remettre à l'honneur hein, dans ce dernier disque où vous enregistrez aussi des mélodies avec Nicolas Chevreau au piano, mais pas mal de ces mélodrames, voilà, auxquels vous redonnez leur place, que vous êtes allé chercher comme ça, par la curiosité qui vous guide habituellement.
Oui, parce que je me disais que peut-être pour le public c'est intéressant de voir comment un poème peut être traité différemment, même sous deux formes, mais de les comparer sur place pendant un concert. Parce que souvent, les gens me disent on a le programme imprimé, mais le poème, nous, quand on le dit, ça nous dit rien du tout. Et on a, alors, voilà, en concert, on a commencé à faire ça, puis je me suis dit, c'est vraiment intéressant. Et les gens disaient, l'entendre deux fois, un poème, c'est formidable. On comprend mieux comment le compositeur l'a vu, l'a conçu. Donc, voilà, c'était une bonne idée, je pense. Et puis, alors là, on découvre une montagne de choses nouvelles, quoi.
Et alors pour la partie parlée, donc vous nous parlez d'une mise en place, j'ai envie de dire rythmique, mais il y a aussi une technique vocale particulière pour dire ces textes.
Bien sûr. Alors là, on arrive dans le monde déclamatoire, disons. Hein, mais ouais. Il faut pas oublier que le conservatoire. National supérieur de musique, CNSMD. Le D, c'était déclamation.
Et de déclamation, absolument.
Voilà. Et Fauré était un des grands turiféraires de cela. Il a imposé à tous les membres du conservatoire de travailler la déclamation, y compris les instrumentistes.
Ah oui.
Donc, il fallait évidemment soi-même. On peut peut-être dire que s'il faudrait à composer des mélodies plus tard, enfin assez tard dans sa vie, qui sont peut-être moins musicalement fournies, mais beaucoup plus proches de la déclamation, c'est aussi à cause du fait qu'il voulait que la déclamation soit mise au premier plan au conservatoire.
Voilà. Alors ça, c'était donc le menuet de Francis Thomé, hein, compositeur assez oublié, mais dont on peut signaler
qu'il est créole. Il est né à Port-Louis, voilà, à l'île Maurice.
En 1850.
Et il a écrit énormément de valses. C'était vraiment une des coqueluches des salons de l'époque. Il a complètement disparu, comme beaucoup de compositeurs français. Et pourtant, juste pour dire au public, s'ils veulent voir les partitions, elles sont toutes disponibles au téléchargement sur le site de la Bibliothèque nationale.
Bibliothèque nationale, où on trouve effectivement beaucoup de choses, de façon tout à fait légale.
Voilà.
Et donc ça, c'est dans votre disque, François Leroux, Mélodies et Mélodrames, paru voici quelques mois. On va en reparler tout à l'heure, et on va reparler aussi du livre que vous venez de publier, L'Opéra français, une question de style, qui fait suite, il faut dire, avec d'ailleurs le même co-auteur, à un premier livre que vous aviez écrit sur l'interprétation de la mélodie française.
Hein. Voilà. J'ai toujours été un peu stupéfait de voir qu'il y avait si peu de chanteurs qui avaient parlé de leur métier sur le plan vraiment de leur conception du travail. Et finalement, à part Pierre Bernac, qui avait fait un livre qui est d'ailleurs édité quasiment seulement en anglais, donc on le trouve pas, sauf dans les bibliothèques anglophones.
Sur les mélodies.
Sur les mélodies. Ouais. Donc il n'y avait rien depuis Bernac. Et puis alors, par contre, sur l'opéra, j'ai eu beau chercher. Souvent, on a des livres de souvenirs, des livres sur la propre expérience d'un chanteur, mais sur l'interprétation elle-même, l'histoire de l'opéra, quels sont les grands noms, pourquoi est-ce qu'on parle d'un baryton Martin, pourquoi est-ce qu'on parle d'une du gazon, tout ça, je me suis dit, autant qu'un chanteur en parle quand même. Donc je me suis amusé à faire ça. Alors c'est un livre qui, au départ, était très, disons, succinct, parce que je sais que les éditeurs n'aiment pas trop quand c'est trop fourni. Voilà, exactement. Il y a même un appareil de notes importe.
375 pages, à peu près. Voilà. Mais c'est passionnant. Et ce sont des exemples, opéra par opéra, de différentes époques, voilà, toutes les questions que pose l'interprétation de ce répertoire français.
Voilà. Et je ne parle que d'opéra que j'ai interprété, sauf La Voix humaine, mais parce que je l'ai, de Poulenc, parce que je l'ai beaucoup enseigné. Donc, je la connais de l'intérieur.
Voilà. Alors, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est un peu l'habitude dans l'émission, remonter un peu dans vos toutes jeunes années, à l'époque où vous écoutiez aussi des chansons et vous avez découvert avec enthousiasme les frères Jacques. Mais alors là, vous m'avez fait plaisir, parce qu'en préparant l'émission, j'ai redécouvert grâce à vous La Complainte des petits cabinets. Hein. C'est un petit bijou.
Ah oui, j'adore, et je l'ai entendu en direct et ça m'avait vraiment... Je l'ai trouvé ça sensationnel.
Les petits cabinets de province, ceux que l'on évince, que l'on met très loin, tout au fond des jardins, près des tas de fumier, des volières, des chenilles, des écuries, des basses-cours. Voire même des bergers. Nous sommes les petits cabinets, ceux qu'on ne daigne pas nommer Vater Closet, ni lieu d'aisance.
Ce serait sans doute une offense,
mais on nous donne des noms extraordinaires, des noms idiots qui font croire nous sommes originaires de l'île de Chiopo. Nous sommes sales et laids, on nous néglige.
Sommes-nous donc tellement indignes, s'il vous plaît?
Oui, s'il vous plaît.
N'avons-nous pas les mêmes attributions, les mêmes fonctions que ceux de la capitale?
Des chefs-lieux et des villes principales.
Mais non. Nos sièges sont de bois brut.
Et le rabot tant désiré nous a dit zut.
Il a préféré glisser sur nos confrères mieux aménagés.
Cirés,
vernissés,
voués aux aristocrates derrière.
béante, géante.
Le regard plonge à l'infini,
on n'en voit pas le fond.
Ironie.
Pour nous, point d'élégance, point de cul faite de faïence, point de bouton faisant jaillir un hygiénique tourbillon,
point de petit balai de chien dans.
Nous sommes dégoûtants, et pour le papier, point de boîte, on le jette à gauche, à droite.
La coupe même pas en petits carrés.
Et ce sont parfois des journaux entiers, des revues de littérature qui tombent dans notre ouverture.
Et nos murs, ah, nos murs salpêtrés, parfois couverts de journaux illustrés, portraits d'actrices,
voire de ministres,
tableaux de grands artistes.
Quelquefois, on nous couronne de roses aux paillassons.
Voilà le seul luxe qu'on nous donne.
Voilà le seul luxe qu'on nous donne. Voilà le seul luxe qu'on nous donne.
Car nous ne sommes que les petits cabinets. Les petits cabinets de province, ceux que l'on évince. Eh bien, soit,
nous acceptons la guerre
et nous serons
les
C'était en 1952, les frères Jacques avec Pierre-Philippe au piano. Chanson étonnante. Si étonnante, d'ailleurs, qu'elle a été censurée quand même à la radio jusqu'en 1962, François Leroux. Vous, vous l'avez découvert tout jeune.
Je pense en 63 ou 64.
Ah, voilà, dès que la censure a été levée. Il faut dire, François Leroux, bien que vous soyez né à Rennes, que vous étiez à l'époque à Tananarive.
Oui. Mes parents étaient coopérants, professeurs tous les deux, et j'ai passé 5 ans à Tananarive. J'ai passé la fin de ma scolarité primaire et puis ma première année de ce qu'on dirait collège aujourd'hui.
Ouais.
Et j'en ai gardé un souvenir extraordinaire de Madagascar. J'y suis retourné plusieurs fois depuis.
Et vous avez vu les frères Jacques là-bas?
Et j'ai
en
vu
spectacle
les frères Jacques en tournée. Ils faisaient une grande tournée. Je ne sais pas d'où ils venaient, où ils allaient après. Mais je me souviens très bien du spectacle. Et c'était vraiment formidable de les voir à Tana, au centre Albert Camus, puisqu'ils s'appelaient comme
ça. Au centre Albert Camus. Voilà. Voilà, et donc, ça a joué dans votre vocation musicale, la chanson
Je n'en sais rien. Mes premières études musicales véritables, c'est à Tananarive que je les ai faites, avec un prof de piano, mais j'ai fait juste un an.
Ouais.
Mais par contre, ce qui est très amusant, c'est qu'au conservatoire à Paris, j'ai eu, quand j'y ai enseigné la première année, j'ai eu tout de suite deux ténors malgaches.
Ah ouais.
Donc ça, c'était un signe pour moi, c'était vraiment un signe qu'il y avait quelque chose qui revenait. Et bon, évidemment, ils sont très jeunes et ils n'ont pas connu le Tana que j'ai connu, moi. C'est là où on voit qu'on a vieilli aussi.
Mais comment alors s'est décidé votre vocation de chanteur?
Alors là, c'est vraiment grâce à mon professeur de musique de lycée à Tours, puisque en revenant de Madagascar, mes parents se sont installés à Tours, et j'ai commencé à chanter dans la chorale du lycée. Et là, j'étais soprano aigu.
Soprano, oui.
Et elle m'a fait voir comme mon premier opéra, et le premier opéra à l'Opéra Comique, c'était Pélléas et Mélisande. Donc c'était aussi un signe, mais moi j'ai trouvé ce signe nul. Je trouvais que c'était très mauvais théâtralement. Ce que j'ai dit d'ailleurs à Jacques Janssen qui faisait Pélléas dans cette production.
Vous avez vu Jacques Janssen dans Pélléas?
Oui, je l'ai vu. Oui.
Le grand Jacques Janssen, qui a été un des Pélléas historiques, on peut le dire.
Et c'était même dans les décors de la création. Je pense que ça devait être peut-être suite à au 70e anniversaire de la création en 72 ou 13, quoi.
Et vous avez trouvé ça très rasoir.
Oui, absolument. je dois dire, j'ai rien compris, quoi. Mais par contre, je pense qu'elle m'a fait mordre tout de suite à la musique. Alors, c'est elle qui m'a dit, mais beaucoup plus tard, quand j'ai fini mes études secondaires, là, après le bac, bon, j'avais fait des études scientifiques et je voulais faire du théâtre, mais je me suis auto-censuré. Je pensais que les parents seraient pas d'accord. Et finalement, au bout de six mois d'études médicales, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là?
Ah oui.
Et donc, je suis allé voir mon prof de musique de lycée, Nicole Aubert, et je lui ai demandé, est-ce que je peux éventuellement faire des études de musicologie? Elle m'a dit, malheureux, tu vas pas faire du à propos de la musique, faut que tu fasses de la musique. Pourquoi tu travailles pas ta voix? Travailler ta voix, mais bah oui, mais enfin, l'opéra, moi je connais rien. Et puis en plus, le professeur de chant du conservatoire de Tours était réputé très mauvaise, donc il m'a dit non, mais tu vas pas aller au conservatoire. On a un ami qui vient s'installer à Tours et qui est un excellent prof, et elle avait raison. C'est lui, François Loup, qui est devenu mon prof de chant, suisse d'origine, et donc. Ben voilà, ça s'est enchaîné. Et alors là, ça a été extrêmement vite, puisque j'ai fait 2 années de chant et je suis entré à l'Opéra Studio tout de suite.
Voilà. Alors, on rappelle, l'Opéra Studio, ça a été un lieu important, hein, qui était lié en plus au merveilleux Opéra Comique et à la salle Favart. Dans cette période où la troupe de la salle Favart avait disparu, il y avait la réforme de l'Opéra, mais néanmoins, il y a eu cette expérience de l'Opéra Studio.
Voilà.
Nous, en quelques mots, ce que c'était.
Alors, l'Opéra Studio, la conception, c'était de faire 3 productions par an, mais avec 3 mois de travail dessus. Donc, sur les 1 an, on avait l'occasion de faire 3 productions, mais pas au rythme d'un opéra et avec vraiment un approfondissement du travail. Et malheureusement, quand je suis arrivé, il y avait déjà un changement de ministre de la Culture. C'est Jacques Duhamel qui avait créé l'Opéra Studio. Et bon, Michel Guy est arrivé et lui, il a dit non, on arrête ça.
Ouais.
Donc moi, je n'ai fait qu'une production, mais j'ai eu la chance et on a tous été vraiment... Enfin, quand on voit la génération qui est passée par l'Opéra Studio, Colette Alioluga, Guylaine Raffanel, Jean-Philippe Lafont, Léonard Pezzino, enfin, ils ont tous fait carrière, y compris moi.
Et beaucoup d'entre eux, dont vous, se sont retrouvés d'ailleurs tout de suite après à Lyon, qui a été un autre lieu essentiel pour cette génération de chanteurs.
Le directeur de l'Opéra Studio était Louis Herlot et il était aussi directeur de l'Opéra de Lyon.
D'où la logique. Mais il y avait, dans toutes ces années, on va revenir à l'opéra français, à Péléas, que vous avez beaucoup chanté après ne pas l'avoir compris.
Voilà, c'est ça.
Mais il y a quand même un autre opéra qui n'est pas français, pour le coup, qui vous a vraiment peut-être donné envie de faire ce métier, qui vous a fait aimer vraiment l'opéra, c'est Don Giovanni.
Finché dal vino calda la testa, una gran festa a preparar, se trovi in piazza qualche ragazza, e quando quella cerca menar, e quando quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, metta il colore nella fantasia, il minuetto, chi la follia, tira le mamma, fare bella, chi il minuetto, fare bella, chi la follia, fare bella, chi la le mamma, fare bella. Ed io frattanto, ma l'altro canto, con questa o quella, vuo amoreggia, alla mia lista, d'una mattina, d'una decina, devi aumentar. Alla mia lista, d'una decina, devi aumentar. Se tu in piazza, qualche ragazza, tengo quella, cerca me, Donna Mattina, tu la regina devi aumentar, senza colori della natazia, il minuetto, chi la follia, chi la levanta, la regola. Alla mia lista, Donna Mattina, tu la regina devi aumentar, tu la regina devi aumentar, tu la regina devi aumentar, devi aumentar, devi aumentar, devi aumentar.
François Leroux dans Don Giovanni. Alors on saute quelques années, on reviendra ensuite à vos débuts. C'était en 1998 avec Nicolas McGuigan dans cette production de Covent Garden. Voilà, un mot peut-être sur ce qu'on vient d'entendre.
Oui, alors à l'époque, Covent Garden a fait plusieurs CD qui étaient consacrés à un compositeur. Donc ils ont fait un Tchaïkovski, ils ont fait un Puccini et puis ils ont fait un Mozart. Ils m'ont proposé de faire un certain nombre de choses mozartiennes là-dedans et c'était d'abord un honneur parce que j'ai pas chanté Don Giovanni à Covent Garden mais je me suis retrouvé avec des grands chanteurs anglais et on a fait ce CD très rapidement et Nicolas McGuigan que je connaissais parce qu'il a beaucoup, beaucoup fait d'opéra français baroque.
Ouais.
Et de le retrouver dirigeant au Covent Garden du Mozart, c'était formidable, quoi.
Et alors, cet opéra, vraiment, Don Giovanni, ça a été le déclic pour vous?
Absolument. Oui. C'était, je l'ai vu assez vite. Avec mon père, on est allé voir à Tours une production dans laquelle c'était Nicolas Gusev qui chantait le rôle titre, hein, et où mon professeur de chant, François Loup, faisait Leporello. Et en voyant cette production, qui était une production tout à fait modeste, mais excellente musicalement, et voyant la grande basse bulgare Nicolas Gusev dans un rôle comme ça, je me suis dit, ah mais voilà, on peut faire ça comme ça. Et tout de suite, ça m'a branché. Déjà, le rôle de Don Giovanni, c'est vraiment le rôle peut-être du meilleur acteur du monde. Hein, parce que quand on écoute la partition et quand on la lit, on se rend compte qu'il n'a pas de langage à lui-même. Il ne fait que renvoyer la balle à ceux qui lui chantent. Et donc, il chante dans le style de celui qui s'adresse à lui. Donc, c'est vraiment comme un caméléon qui répond. Bon, je crois que comme je voulais faire du théâtre, je me suis retrouvé à penser à Don Giovanni comme le rôle absolu, quoi. Alors évidemment, quand je suis arrivé à le faire, et en plus la première fois que je l'ai fait, c'était en 87, c'était donc l'année anniversaire de la création de Don Giovanni à Prague. Après avoir vraiment adoré la production que j'ai faite à l'Opéra Comique de Johann Hervefeld, avec une distribution exclusivement française, puisque Jean-Louis Martinotti avait décidé de faire un Don Giovanni exclusivement français. Une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, bon ben voilà, tu as fait ton,
voilà,
ton but,
fini.
Je fais quoi maintenant?
J'ai 25 ans, je m'arrête.
Voilà, c'est ça.
Mais justement, vous avez chanté à vos débuts, il faut le dire, parce que comme vous savez, l'opérette est à l'honneur dans cette émission, pas mal de rôles très dans des genres très différents, et notamment, vous avez chanté Florestan dans Véronique,
hein, absolument.
De Message, et ça, ouais, c'était une des premières aussi choses importantes de votre carrière.
Très importante, c'est la première chose que Rolf Liebermann m'a donnée, puisque j'ai auditionné pour, comme tous les gens de l'Opéra Studio qui allait fermer, j'ai auditionné pour faire éventuellement un petit rôle, et puis je suis sorti et Liebermann m'a dit bravo François, excellente audition, et Janine Reiss qui était là avec lui,
la grande
m'a
chef
dit,
ben, de voilà. chant
oui exactement, voilà. Elle m'a dit ben voilà François, vous allez faire le Florestan et pas le rôle pour lequel on pensait.
C'était quoi cette production de Véronique?
C'était Jean-Laurent Cochet, et donc il y avait là aussi une distribution exclusivement française, avec dans Coquenard Michel Roux par exemple, un grand golo de la génération d'avant, et puis Daniel Chostava qui faisait Véronique, et puis ma grande amie Odette Laure qui faisait Hermance de Champ d'Azur, voilà.
Voilà. Et alors, naturellement, on sait que Véronique a été créée, enfin le rôle de Florestan, par le même baryton aigu, on va voir ce que c'est qu'un baryton Martin, si c'est le cas, mais en tout cas que Péléas de
absolument.
Debussy, c'était Jean Perrier. Oui. Et vous-même, vous avez assez vite enchaîné les deux rôles.
Oui. C'est... Alors je ne sais pas s'il a chanté Don Giovanni, il faudrait que je voie.
Mais Jacques Janssen a aussi, lui, chanté ses deux rôles, d'ailleurs.
Absolument, oui. Et donc c'est vrai que c'est vraiment tout. Il y a une cohérence, même si elle est fortuite, en l'occurrence, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir les... Bon, il y a plein de rôles que Jean Perrier en a tellement créé, il y en a plein que j'ai pas fait. Ouais. Mais le fait d'avoir fait Véronique, d'avoir fait Monsieur Beaucaire aussi, des choses comme ça qui sont des rôles magnifiques. Et malheureusement, Monsieur Beaucaire, je trouve qu'on l'entend pas suffisamment.
C'est
vraiment
vrai.
une magnifique.
Vous étiez alors donc à quoi, baryton quoi à l'époque,
voilà,
François Leroux.
Vous savez, quand on arrive sur le marché, comme on dit aujourd'hui, et qu'on se retrouve jeune baryton et qu'on vous a entendu. D'abord le premier rôle Nick Shadow de Rex Progress, mais en français, puis après on vous entend dans Véronique de Messager, puis après la même année j'ai fait mon premier spectacle de musique contemporaine avec une création de Apergis, Je vous dis que je suis mort, d'après Edgar Poe, tout le monde veut vous mettre dans un tiroir, et moi j'ai essayé le plus longtemps possible de ne pas entrer dans le tiroir, en tout cas exclusivement, et finalement ce qui m'a sauvé en fait, c'est que d'être en troupe à l'Opéra de Lyon, là on faisait vraiment tout.
Ah oui.
Et j'ai pu comme ça faire aussi le Songe d'une nuit d'été, de Britten. J'ai fait des opéras contemporains, mais j'ai fait aussi de l'opérette. J'ai fait mes premiers Offenbach. J'ai fait bon, et puis Péléas. Donc voilà. Donc la case n'a pas été une, elle a été multiple.
Mais il existe quand même ce baryton particulier de la musique française, qui est un baryton proche du ténor d'une certaine façon, et qu'on appelle bien le baryton Martin.
Absolument. Et qui, alors, Monsieur Martin était un créateur d'œuvres d'opéra comique pur du XVIIIe siècle, hein, donc ça remontait assez haut. Et c'est vrai, quand on regarde ce qu'il a chanté, on se dit waouh, il avait une belle tessiture, le monsieur, parce que vraiment aujourd'hui, il y a plein de choses qu'il a créées qui seraient vraiment faites exclusivement par des ténors. Mais C'est, je pense que c'est la langue française qui permet cette espèce de clarté d'émission, si évidemment on fait attention à ça, alors que souvent maintenant on parle exclusivement du son et on ne parle pas du son venant de la langue. Donc, voilà, le plus grand compliment qu'on m'a fait, dont je suis vraiment fier, c'est de quand je chantais en italien, qu'on vient de me parler en italien après, quand je chantais en allemand, qu'on vient de me parler en allemand après, et évidemment en français, c'était évident qu'on me parlait en français. Mais c'est ça pour moi le vrai compliment, c'est que la voix, elle s'adapte à la langue qui est émise.
Alors on va revenir évidemment à ces questions techniques et à ce lien entre la musique et la langue, mais une expérience pour vous marquante encore, c'était en 1979 ou 80, c'était Leontine Price, l'Opéra de Paris.
Oui, absolument. Magnifique chanteuse et elle aussi, pas à mettre dans une case, mais dans beaucoup de cases.
Voilà, et en plus ici dans un répertoire plutôt de comédie musicale, The Girl from Utah.
They didn't be from this great big world you've chosen me. And when I told them how wonderful you
piano, c'est rien moins qu'André Prévin. Et puis Leontine Price, donc en 1967, ça c'est du beau chant, on peut dire.
C'est magnifique. Et puis aussi du texte, de l'interprétation.
C'est ça.
Non, il y a tout. Vraiment, elle m'avait bluffé parce que je
l'ai... Parce qu'elle chantait du français à l'opéra, chantait, donc voilà, des mélodies françaises, et elle le chantait aussi bien qu'elle chantait anglais.
Absolument. Moi, vraiment, j'ai été épaté. Bon, elle a commencé par quelques Handel pour se chauffer, quoi. À l'époque, on faisait beaucoup ça dans les récitals. On commençait par un petit peu de baroque arrangé pour le piano.
Oui.
Et oui.
On se met en forme,
mais après, d'accord, elle a fait du Parc, du Forêt. Enfin, mais c'était merveilleux, vraiment.
Mais alors, qu'est-ce qui fait, François, parfois on a le sentiment, quand on écoute beaucoup de musique française, notamment de mélodie ou d'air d'opéra d'ailleurs, que parfois, paradoxalement, certains chanteurs anglais ou américains, on va mieux les comprendre que certains chanteurs français. Qu'est-ce qui fait qu'on comprend le texte d'un chanteur ou pas ?
Je pense que...
C'est pas sa langue natale, finalement.
Non, non, non.
C'est pas la
mais question. Je pense que c'est les études, parce que les chanteurs étrangers, ils travaillent comme si c'était quelque chose de nouveau, d'excitant, d'intéressant, d'exotique presque.
Donc ils font très attention.
Ils font attention. Alors oui, que souvent, je vois même dans les cours de chant de beaucoup de mes collègues, je veux pas leur jeter la pierre, mais on parle technique, mais on ne fait jamais partir la technique, par exemple, de notre propre répertoire. Moi, je reste quand même éberlué qu'au Conservatoire National Supérieur, les deux, à Lyon et à Paris, il n'y a pas du tout de classe de répertoire français. Alors que vous allez dans n'importe quelle Hochschule allemande, il y a une classe spécifique de répertoire allemand. Et c'est, alors évidemment, on va vous dire oui, mais parce qu'on ne veut pas être trop chauvin. Oh, mais ce n'est pas une question d'être chauvin. Problème, ouais. Il faut quand même savoir que la langue française est une langue qui a des spécificités. Et je crois qu'on est en train d'arriver au bout d'une période où on globalisait beaucoup vocalement et on voulait un son absolument uniforme sur presque tout le répertoire. C'est en train de changer.
Ça a été la grande révolution peut-être négative des années 70 à
exactement,
peu près,
hein,
où oui, la technique oui, de chant a complètement changé, et on a l'impression, quand on entend les chanteuses d'avant, je sais pas, les Ninon Vallin ou autres, que c'est pas du tout le même genre de voix que les chanteuses d'après.
Non, puis vous parlez, Benoît, de Ninon Vallin, mais ça aussi, c'est... Bon, moi je l'ai malheureusement jamais entendu chanter, évidemment, mais c'est... J'ai une tante qui était uruguayenne et elle l'a accompagnée dans ses classes de chant, puisque Ninon Vallin était tout le temps en tournée en Amérique du Sud, hein, oui, au moins 6 mois par an, puisqu'elle parlait l'espagnol couramment. Et ma tante m'en a parlé, j'en ai entendu parler, mais vraiment en long, en large et en travers. Et puis après, quand j'ai écouté les enregistrements, j'ai dit, mais elle chanterait aujourd'hui, on l'engagerait encore. C'est tellement magnifique, son français, c'est tellement simple et pas vieillot non plus. La voix n'est pas acide, comme il y a, évidemment, ça a beaucoup changé aussi, la perspective esthétique, disons.
Mais c'était quoi? C'était des voix de tête, plus?
Enfin, un peu nasale, c'est-à-dire... Oui,
c'est ça qui a disparu,
après. Qui a disparu, parce que je pense qu'avec l'enregistrement, on s'écoute plus maintenant, quoi, c'est ah ça. Oui. Alors qu'à l'époque, bon, on pensait, il faut que je passe l'orchestre, il faut que je... Donc la technique, c'était, on projette.
Voilà. Alors tiens, on a parlé de Monsieur Martin, qui a donné naissance au baryton du même genre. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure Madame Dugazon. C'était
oui,
qui, celle-là?
Ah, Madame Dugazon. C'était on pourrait dire, justement aujourd'hui, c'est très difficile de dire, c'était aussi une chanteuse d'opéra comique. Et elle était, on dirait, un soprano qui monte pas trop et une mezzo qui ne descend pas trop et qui ne vocalise pas trop. Mais quelqu'un qui a une très forte personnalité théâtrale. Donc, un Dugazon, c'est presque tous les grands rôles du répertoire français, de genre Carmen, c'est ça.
Ah, ce sont des Dugazons, voilà. Parce que le théâtre compte autant que la musique dans ce genre d'emploi.
Voilà.
Voilà, alors tout ça, on le retrouve dans votre livre « L'opéra français, une question de style ». On va d'ailleurs y revenir, mais vous disiez aussi, au fond, voilà, il y a une spécificité du répertoire français, d'où la nécessité de créer des classes, à votre avis. Alors, qu'est-ce qui, vous le résumez très bien dans la préface du livre, qu'est-ce qui distingue le chant français du chant italien et du chant allemand? Qu'est-ce qui caractérise ces trois sortes de façons de chanter?
C'est toujours plus facile de dire ce que ça n'est pas c'est quand on est évidemment soi-même français. Mais je dirais que pour le public, quand on voit comment le public français réagit, il n'aime pas trop l'opéra français dans le livret parce qu'il comprend tout. Enfin, il devrait en tout cas, normalement, et qui trouve que c'est un peu cucu la praline ou mal écrit. Et en fait, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que c'est pas du tout vrai. Il y avait des formes obligatoires qui étaient évidemment prévues au 19e siècle, et ils étaient toujours deux, les librettistes. Il y en avait un qui faisait, on dirait, le pitch, ouais, et puis le deuxième faisait la versification
les
pour
couplets.
Voilà. Exactement. Ouais. Et donc, c'était deux spécialistes, en quelque sorte. Mais le versificateur, qui s'appelle Alévi ou Jules Barbier, sont des gens qui sont extrêmement doués pour ça. Et quand on entend les opéras en langue étrangère, déjà, on comprend pas, en règle générale, le français étant pas très, très doué en langue étrangère. Mais du coup, on a l'impression qu'on se laisse bercer par la musique. Or, moi, je pense que le français, il aime tout dans la musique. Il aime comprendre, il aime apprécier, il aime sentir. Et il faut que tout ça soit mis au même plan. Et donc, pour ça, il faut travailler, évidemment, ce que la langue française a et comment elle est formée, avec les octosyllabes, les décasyllabes, les alexandrins. Ouais. Et comment, du coup, le phrasé n'est pas un phrasé accentué, c'est un phrasé long et liquide.
Parce que, comme vous le dites, au fond, dans ce livre, l'Italie va plutôt vers ce qu'on appelle le beau chant.
C'est ça.
Voilà, le grand déploiement. L'Allemagne va plutôt vers la musique totale, dont le chant est un élément, et la France va vers le lien étroit entre le texte et la musique.
Exactement. Voilà. Exactement. Vous avez parfaitement résumé, Benoît, bravo.
Alors, on va écouter, on vous retrouve, François Leroux, dans une... Alors, est-ce que c'est une mélodie ou une chanson de Joseph Kosma ? Faut pas m'en vouloir. Là aussi, c'est une question. On va y revenir après. On vous écoute d'abord avec Jeff Cohen et le Matrix Ensemble en 1997.
Je suis à vous sans vous voir. Si mes yeux n'apportent que reflets des amours mortes à l'amour la soir, faut pas m'en vouloir de me taire. Faut pas m'en vouloir si je mens. M'accepter solitaire ou bien partager mon tourment. Faut pas m'en vouloir si je souffre de ne pas aimer le bonheur. Si les souvenirs qui m'étouffent place en mon cœur. Faut pas m'en vouloir si je pleure, si je ris quand il faut gémir, si je suis trop bon pour le seul être qui m'aime. Ne peut le fuir. Faut pas m'en vouloir de me taire. Faut pas m'en vouloir si je mens. Il faut m'accepter solitaire. Souvenir qui m'étouffe, pris toute place en mon cœur.
Faut pas m'en vouloir, c'est Joseph Kosma pour la musique, un enregistrement donc de 1997, dans tout un disque Kosma. Alors c'est une chanson ou une mélodie, François Leroux ?
Ça c'est vraiment une chanson, en plus ça a été écrit pour un film, donc c'est vraiment une chanson. Mais Kosma a quand même été à Berlin, a travaillé avec des grands professeurs, et puis quand il s'est réfugié en France, il a été... happé par Jacques Prévert, le groupe Octobre, etc. Donc là, il a évidemment plutôt été orienté vers la musique de film et puis les chansons. Mais je trouve la base, c'est toujours évidemment un peu comme Kurt Weill, c'est des mélodies absolument enfin, reconnaissables, puis qu'on apprend tellement facilement. Enfin, Les Feuilles Mortes, c'est quand même l'un des grands, grands chefs-d'œuvre purs et durs de la musique vocale. Qui que ce soit qui chante, c'est pas... J'aime pas quand on dit Les Feuilles Mortes d'Yves Montand, non, c'est Les Feuilles Mortes de Cosma et Prévert. Enfin,
ouais, ouais.
Et Cosma, on oublie que ça a été un... Bon, il a écrit un opéra, Les Canuts, il a écrit énormément d'autres choses. Mais je trouve toujours passionnant de voir aussi comment, justement, un compositeur d'origine hongroise, juive hongroise, qui passe par l'Allemagne, arrive en France, et finalement devient emblématique d'un certain art français.
Enfin, comme Offenbach, trouve...
hein, absolument.
Évidemment. Absolument. Et alors, vous aimez bien, en tout cas, ces limites un peu subtiles entre la chanson populaire et la mélodie que vous avez illustrée dans d'autres disques, comme par exemple le disque consacré à La Fontaine. On est aussi souvent à cette limite-là. Hein.
Oui, parce que c'est difficile. Maintenant, nous, on aime bien classer. Et puis, je vois, par exemple, dans tout ce qui est musique aujourd'hui, de rock, etc., dès qu'il y a un nouveau enregistrement, on essaie de trouver un qualificatif pour que ça devienne nouveau, totalement nouveau. Mais je pense que c'est stupide. Peu importe que ce soit une chanson ou une mélodie, au fond, du moment que c'est bien écrit, c'est formidable. Bon, après, la différence entre la chanson et la mélodie, c'est, disons que la chanson, c'est l'interprète qui est au premier plan, et donc il peut faire ce qu'il veut sur un genre de canevas, disons. Alors que la mélodie, on est au service du poète et du compositeur à la fois, et on se met pas en retrait, mais c'est eux qui sont importants. Donc il faut d'abord travailler pour comprendre ce que le compositeur a vu dans le poète. Voilà, c'est ça. C'est ça la différence.
Mais assez vite, François Leroux, après ses premiers grands rôles, et notamment Péléas, puis Golo, quand votre voix de baryton Martin est devenue un peu moins Martin.
Voilà, c'est ça.
Après tous ces rôles d'opéra et également les rôles italiens et tant d'autres, vous êtes très vite quand même tourné passionnément vers l'art de la mélodie le récital et le disque de mélodie, plus que d'autres chanteurs. Vous avez vraiment revendiqué ça tout de suite.
Oui, parce que d'abord la poésie, ça a toujours été une passion.
Oui.
Verlaine lui-même a été une passion. C'est pas pour rien que j'ai créé un ouvrage sur sa vie. Verlaine Paul.
Verlaine, l'écrivain français le plus mis en musique.
Absolument.
Il a toujours fasciné les musiciens.
Au monde, hein, c'est pas seulement le plus... C'est
le poète le plus mis en musique dans le monde.
Au monde, voilà, oui,
c'est ça,
oui. Si on compte les traductions de ses poèmes en allemand, etc. Oui, et la poésie, la mélodie, c'est le mariage de la musique et de la poésie. Donc, je ne pouvais qu'être attiré par ça. Mais ce qui est très curieux, c'est que quand j'ai fait quelques masterclass avec quelques très bons professeurs, j'étais toujours étonné qu'on n'aille pas au fond du travail poétique. On était tout le temps en surface, on ne voyait pas, par exemple, pourquoi Fauré a coupé telle strophe, pourquoi est-ce qu'il a changé tel mot. Et moi, ça me passionnait, j'aurais aimé qu'on m'en parle. Donc c'est pour ça que j'ai créé l'Académie Francis Poulenc à Tours il y a maintenant 23 ans, parce que je me dis, j'aimerais bien qu'on puisse travailler à fond et que les gens aient l'impression qu'on contextualise, on fait vraiment tout le boulot, mais pas seulement du côté musical, mais aussi du côté intellectuel et littéraire. Et alors évidemment, ça demande plein de spécialistes et une équipe, mais l'équipe, on l'a constituée, 8 professeurs, et on s'entend admirablement, et donc ça marche très très bien. Et tous les gens qui sont passés, généralement, ils ont le virus après, c'est ça que je veux.
Voilà, c'est à Tours, la prochaine édition de l'Académie.
Oui, ce sera du 17 au 27 août l'année prochaine. L'année et ça prochaine. Sera sur les animaux. Tous les animaux mis en musique, en mélodie.
Ah bah oui, et là, il y a de quoi faire aussi. Alors, le goût de Verlaine, François Leroux, vous a conduit vers des quantités de musiciens célèbres et moins célèbres. Alors oui. Là, vous m'avez fait très plaisir parce que dans votre disque Mélodie et Mélodrame, vous rendez hommage à un personnage qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Fernand Oxer, qui est mort tragiquement, si le mot est faible, à Auschwitz en 1944, mais qui avait été un grand ami de Reynaldo Hahn et un personnage du milieu musical français du début du XXe siècle, à la fois décorateur et musicien, Fernand Oxer. Donc, et vous avez enregistré pour la première fois un mélodrame et une mélodie d'Oxer.
Oui, absolument. Ben, Oxer a écrit beaucoup de mélodies absolument magnifiques, mais pas très faciles à chanter, et plutôt, je pense, puisque c'était vraisemblablement créé dans un salon, lequel je ne sais pas, mais vraisemblablement pour un soprano ou éventuellement un ténor, puisqu'ils étaient tous amis de Edmond Clément, qui était le grand ténor qui a créé tellement de choses, de Reynaldo Hahn, de Léon de la Fosse, enfin des musiciens proustiens. Et donc là, dans le grand cycle qui s'appelle Le Parc.
Le Parc, 1913, voilà.
Voilà, que exclusivement des poèmes de Verlaine, il y a donc deux morceaux qui m'ont semblé
possible pour ma voix, donc voilà.
Alors on va écouter une mélodie, pour le coup on a écouté tout à l'heure un mélodrame, c'est Les Ingénues, mais qui finit aussi en parler, il mélange un peu les deux, poème de Verlaine, musique donc de Fernand Auxet, chantée par François Leroux. Fernand Auxet, Les Ingénues, sur la poésie de Verlaine, donc qui est également présent dans votre disque François Leroux, donc avec le cycle des Fêtes Galantes de Debussy. Et j'ajoute dans ce même disque, qui est paru il y a quelques mois, Gérard Condé aussi, notre cher Gérard Condé, qui a lui aussi écrit un cycle des Fêtes Galantes de Debussy.
Oui, et alors lui, c'est un
cycle... De Debussy, pardon, de Verlaine.
C'est vraiment un cycle de... On peut presque dire de mélodrame, c'est pas tout à fait un mélodrame, mais c'est passionnant parce qu'évidemment là il s'amuse à travailler sur la diction. Et il m'avait dit, Gérard, quand je lui ai dit que nous allions l'enregistrer avec Nicolas Chevreau, que il considérait ça comme son opus 2. Donc puisqu'il est avant tout compositeur quand même, donc j'étais fier que il le reconnaisse, parce que souvent les compositeurs sont très très, disons, ingrats envers leur musique de jeunesse, quoi.
Voilà. Non, c'est un très beau cycle que j'ai aussi écouté avec joie. Donc dans ce disque Mélodie et Mélodrame que vous avez enregistré avec Nicolas Chevreau et que je recommande beaucoup, tout comme votre livre François Leroux, L'Opéra français, une question de style, de l'interprétation lyrique. On en a déjà un peu parlé. Je précise donc que ce livre, vous l'avez écrit comme votre livre sur la mélodie en duo avec Romain Reynaldi.
Oui. Alors Romain est un quelqu'un qui est venu m'interviewer pour un programme à l'Opéra Comique. Je crois que c'est le programme pour mon premier Golo. Et puis, on a sympathisé et il m'a dit, mais pourquoi vous ne parlez pas de votre travail sur la mélodie. J'ai dit, moi, j'aimerais beaucoup et en parler pour que ça devienne écrit, mais je ne sais pas si je suis capable. Il m'a dit, si je l'enregistrais des conversations et puis qu'ensuite on mette en forme. C'est comme ça qu'on a donc fait le premier livre, Le Chant Intime. Et puis, on a fait la même chose sur l'opéra ensuite, voilà. Ce qui a été un petit peu plus long parce que, bon, d'abord, Romain est correspondant de l'AFP à Los Angeles, donc c'est un peu compliqué, spécialiste de cinéma, donc c'est pour ça qu'il est là-bas. Mais ça a été formidable de travailler à deux parce que ça m'a permis justement d'éviter l'écueil de me juger en tant qu'écrivain. Alors je me suis dit, je suis pas écrivain, je réalise juste ce que le post-montage, puis si on parle cinéma, de ce qu'on a fait ensemble en enregistrement.
Voilà. Et donc là, c'est une œuvre par chapitre. Hein. Ça va de d'Alceste de Lully jusqu'au Château des Carpates de Philippe Hersant. Et puis des œuvres rares. Mais vous dites que vous avez tout chanté. Par exemple, vous avez chanté Le Rêve d'Alfred Bruno.
Oui, ici, dans cette maison.
Alors ça, c'est vraiment
c'était en concert. Hein. J'ai mis aussi, bien sûr, quelques
Fred ouvrages. Bruno, qui était le grand ami d'Émile Zola.
Émile Zola, absolument. Voilà. Et j'ai trouvé, comme c'était un opéra qui a vraiment, à l'époque, été un succès incroyable. Oui. Je me suis dit, il faut quand même que je comprenne pourquoi. Et c'est pour ça, quand on m'a proposé de chanter le rôle principal, qui était vraiment un rôle magnifique, hein, je me suis dit, bon, d'accord, on va voir. Et c'est vrai que moi, ça m'a été un peu difficile de comparer cet ouvrage à Péléas, puisque c'est à peu près au même moment. Mais en même temps, c'est assez étonnant parce que Bruno, grand élève de Massenet, aussi grand wagnérien, qui travaille sur un livret travaillé par Émile Zola avec lui, c'est étonnant. Et en même temps, c'est un Émile Zola pas traditionnel, enfin pas tel qu'on le connaît, puisque c'est quand même très mystique,
voilà, c'est une histoire de religion. Pas le côté social de Zola,
C'est étonnant.
Et bien alors d'autres choses, par exemple, qu'on n'entend à peu près jamais, mais que visiblement vous avez chanté, l'Orestie de Millau.
De Millau, alors oui, ça, c'était quelque chose aussi, ça a été
avec
fait
beaucoup de polytonalité.
Voilà, en Hollande en plus, parce que les Hollandais adorent Millau, et donc...
Ah bon, ça me fait plaisir, moi qui adore Millau et qui trouve que les Français le défendent pas, les Hollandais adorent Millau.
C'était Reinbert de Leeuw, enfin, comme ça, il faut dire,
excellent. En chef, voilà. Musique du XXe siècle.
Et je dois dire que c'est un ouvrage qui est tellement énorme, les Euménides, qui est la dernière partie de l'Orestie, énorme. L'orchestre est gigantesque, il y a double chœur, le rôle d'Athéna est chanté par trois femmes, et la mezzo au milieu a le texte, les deux, il y en a une qui est à l'octave au-dessus et l'autre à l'octave en dessous. C'est expérimental, disons, c'est peut-être pour ça qu'on ne le monte pas, parce que c'est vraiment à la limite de l'expérimentation théorique, quoi.
Et puis dans un genre beaucoup plus, on pourrait dire, raffiné, j'aime beaucoup cette œuvre Madame II de Jean-Michel Damas, qu'on néglige aussi trop et qui est pourtant un grand compositeur.
Absolument, hein. Et puis on avait fait à Genève une magnifique production de Vincent Vitoz et le rôle de Monsieur II, moi j'avais évidemment Charles Boyer.
Sur le texte de Louise de Villemorin,
oui, et dans le film, donc je voyais Charles Boyer, je me dis, waouh, je vais faire ce rôle-là, c'est super.
Voilà, et tout ça c'est dans votre livre L'Opéra français, une question de style. Berlioz a droit à trois chapitres.
J'ai eu la chance de chanter trois ouvrages.
Rappelez-nous lesquels.
Alors, le Benvenuto Cellini, et Béatrice et Bénédicte, et La Damnation.
Et La Damnation de Faust. Voilà. Et vous êtes aussi associé à un disque Berlioz, alors où il n'y a pas que du Berlioz, mais des orchestrations de Berlioz.
Exactement.
Et là, on va encore aller aux frontières de la chanson et de la mélodie avec Plaisir d'amour.
De Martini.
Thank you.
Très belle orchestration de Berlioz, hein, François
oui,
Leroux,
magnifique, hein.
Pour ce disque que vous avez enregistré en 2003 avec Charles Dutoit. Et donc, évidemment, la chanson, ou la mélodie, je ne sais pas.
Ou la romance.
Voilà. C'est encore un autre genre, la romance,
absolument,
dont il faut parler,
oui.
Et qu'on connaît moins bien, et pourtant oui. Qui a été le grand genre vocal français avant la mélodie.
Oui,
hein.
Et qu'on trouvait dans tous les journaux hebdomadaires, on avait droit à la romance imprimée, qu'on pouvait après chanter soi-même au piano. Enfin, c'était sans doute étrange, peut-être, mais la musique faisait partie vraiment de la vie quotidienne d'une certaine société, hein, pas tout le monde. Mais la bourgeoisie était capable de chanter et de jouer du piano en s'accompagnant. Et puis bon, un texte comme celui-là, c'est quand même Florian qui écrit ça. Hein. C'est déjà de la belle poésie. Hein.
Ouais. Donc voilà, en tout cas, vous continuez à porter cette cause du chant français, de la mélodie française à travers votre Académie de Tours, à travers ce livre qui vient de paraître, qui nous donne aussi à réfléchir sur les grands interprètes du passé. Alors, je vous ai posé une question il y a deux jours. En fait, qui vous préférez des grands barytons? Parce que la France a été le pays des barytons.
Ah,
alors,
oui, oui.
J'ai cité Panzera, Michel Danse, Gérard Souzet, Jacques Janssen, Roger Bourdin et d'autres encore. Vous m'avez dit tous, en fait. Hein.
Oui, parce que ça dépend
Gabriel
vraiment.
Gabriel Baquier, bien sûr, José Vandamme également.
Non, mais ça dépend vraiment dans quoi et... quand on est, comme moi, vraiment la tête dans le répertoire, il y a des choses qu'on aime plus ou moins parce qu'on a l'impression que c'est plus ou moins abouti dans le travail, mais chacun a réussi des choses exceptionnelles. Et je dois dire que Panzera a été certainement un des exemples au départ pour moi. Souzet ne l'a pas été, curieusement, je dirais, il a même été à contrario parce que je l' ai entendu en récital et c'était vraiment plus le grand Souzet. J'avais trouvé ça extrêmement empoulé et ça m'avait presque énervé.
Ce qui lui a été souvent reproché, mais en réalité, grand chanteur il avait été.
Ah oui,
aussi.
Oui, là, voilà. Dans les enregistrements du début, c'est exceptionnel, vraiment. Puis, quelle beauté de voix aussi. Et puis, bon, Jacques Janssen, c'était un ami. J'ai redécouvert il avait quand même, il m'a dit, il avait enregistré l'intégrale des mélodies de Debussy quand il était jeune pour la radio ici, puisqu'il était aussi baryton solo de la radio. Et heureusement, ils ont ressorti récemment chez Decca un CD avec ces enregistrements de Debussy, Chabrier et Ravel. Donc ça, c'est formidable. Et puis, Michel Danse, je l'ai entendu. Baquier, j'ai chanté avec lui. Vandamme, j'ai chanté avec lui. Enfin, c'est bon, il n'y a que Roger Bourdin que vous avez cité. Martial Singer aussi. Ils ont tous été des gens formidables. Je trouve que on manque un peu de reconnaissance envers les grands aînés, et surtout les grands aînés qui sont enregistrés, donc on peut écouter. Je suis toujours étonné de voir que, même sur YouTube, on va plutôt vers les enregistrements de gens qu'on connaît, plutôt qu'essayer d'entendre des gens qu'on connaît pas, mais qui sont d'une génération qu'on a quasiment oubliée. Si on oublie ça, les urnes de l'opéra, pour moi, ça a été une révélation exceptionnelle.
On a exhumé ces enregistrements qui avaient été déposés au tout début du XXe siècle.
Ah oui, et moi, la révélation, une des révélations, ça a été Paul Frantz qui fait le monologue de Lohengrin, les adieux, en français. Mais c'est incroyable. On a l'impression vraiment qu'il s'adresse à vous, il vous raconte une histoire avec une superbe voix et une diction exceptionnelle. Et c'est pas du tout... Alors évidemment, ça crachote, et bien sûr, c'était de la cire. Hein. Mais bon, ça m'a donné en plus une bonne base de travail sur l'évolution esthétique et pourquoi on ne peut pas condamner une esthétique simplement parce que ça vous plaît pas. Ça ne suffit pas. Le plaisir d'amour, c'est une chose, mais le plaisir d'écouter, c'est pas seulement la qualité de la voix, c'est un tout. Il faut essayer d'aller jusqu'au bout et comprendre pourquoi. Même Bernac, par exemple, dont on n'a pas parlé. Bernac, bon, les enregistrements qu'il a fait, c'est pas toujours la voix la plus belle. Bon, mais il y a des raisons pour ça. Puis il y a des choses merveilleuses. Le son soupir de Duparc avec Poulenc au piano, par exemple, c'est incroyable.
Alors moi, j'en ai choisi un autre encore.
Je suis sûr.
C'est Camille Morane.
Oui, bah, j'en ai pas parlé. Bah, ça
itinéraire bien. Tellement étonnant de la musique religieuse vers la mélodie et vers l'opéra aussi. Hein,
Et il a été professeur à l'école normale comme moi, donc c'est un glorieux prédécesseur.
Voilà, et on va le retrouver en plus dans Du Messager, une opérette, Les Petites Michues. Et voilà, ça a l'air tellement simple et c'est tellement beau.
Quoi vous tremblez, ma belle enfant? Vous tremblez pour ce badinage. Vous devez payer cependant. Il faut obéir à l'usage. Voyons calmons ce grand émoi. Il s'agit d'une bagatelle. Et le danger, mademoiselle, serait plus à craindre pour moi. Et le danger, mademoiselle, serait plus à craindre pour moi. Ne baissez pas ainsi les yeux. Un petit moment de courage, là sur le front, près des cheveux, je vais acquitter votre gage, bien doucement. C'est fait, ma foi, c'est fait, et vous n'êtes pas morte. Mais je crois, le diable m'emporte, que le danger était pour moi. Mais je crois, le diable m'emporte, que le danger était pour moi.
Camille Morane dans Les Petites Michues, c'est quand même pas mal, hein, François Leroux.
Plutôt pas mal.
Dirigé par Jules Gressier. Bon, en même temps, on a beaucoup parlé ce matin des barytons. Il faut dire que le baryton, c'est la voix qui naturellement est la plus proche du registre parlé.
Absolument.
Donc, qui se prête le plus à cette belle diction. C'est plus difficile pour les femmes, et notamment pour les sopranos, non ?
Oui, tout à fait. Mais c'est aussi plus difficile si on leur dit tout de suite, change ton son, parce qu'il faut qu'ils restent beaux en haut. Bon, j'ai eu la chance de travailler un an avec Elisabeth Grümmer, la grande soprano allemande. Quand on écoute ces enregistrements, même de Wagner, puisqu'elle a fait Elisabeth de Tannhäuser, etc., il y a des sons qui ne sont peut-être pas beaux, mais on entend la voyelle telle qu'elle doit être faite. Et si c'est un I qui est sur un La aigu, c'est un I, c'est pas un E, je ne sais pas quoi. Donc, reste à savoir la perspective qu'on veut. Est-ce qu'on veut une belle voix partout, homogène, etc., ou bien est-ce qu'on veut que le texte soit intelligible d'un bout à l'autre, et aussi que, du coup, l'expression soit juste.
Et est-ce qu'on continue à surtitrer les œuvres françaises dans les théâtres français ?
Exactement, c'est quand même hallucinant. Comme disait Irène Aitoff, je me souviens une fois en audition, j'étais là, et il y a une chanteuse qui chantait, et à la fin elle fait « Je n'ai rien compris !» Et là, moi j'ai éclaté de rire, mais c'était vrai. Et bon, elle n'y allait pas par quatre chemins. Je pense qu'aujourd'hui, on se ferait attaquer après si on disait ça comme ça.
Mais, bon. Mais c'est malheureusement trop souvent le cas. Et merci en tout cas François Leroux d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer quelques-uns de ces aspects de tout ce qui vous passionne. On va se quitter en opérette puisque voilà, c'est l'émission qui le veut. J'aurais pu prendre un peu de Chabrier. On va finir avec Offenbach, le général Boom. Ça vous convient ?
Ça va très bien.
Voilà, de la Grande Duchesse de Gerolstein, version Minkowski. Merci François Leroux en tout cas, et j'espère à très bientôt pour continuer
ces
passionnantes réflexions.
À cheval sur la discipline, par le valot, je vais devant moi, j'extermine les bataillons. Le plus fier ennemi se cache, tremblant que l'eau, quand il aperçoit le panache que j'ai là-haut. Le panache que j'ai là-haut, oui. Et pif, paf, pouf, et tarapapapom, je suis moi le général. Et pif, paf, pouf,
et parapapapum, je suis moi le général. Pum, pum, ma après la guerre, je reparais, et la plus belle pour me plaire se met au frais. Elle caresse ma moustache en souriant. En ce moment-là, mon panache est fort gênant. Mon panache est fort gênant. Oui, pif, paf, pouf, et tarapapapum, je suis mal général. Pouf, pouf, et pif, paf, pouf. Et tarapapapum, je suis moi le général. Pum pum,
et pif paf pouf, et tarapapapum, il est pris le général. Pum pum, et pif paf pouf, et tarapapapum, il est pris le général. Pum pum.
La grande duchesse de Gerolstein, le général Boom, chanté par François Leroux, qui était ce matin mon invité et qui vient donc de publier l'opéra français Une question de style, un livre coécrit avec Romain Reynaldi et qui est paru aux éditions Hermann. Et puis François Leroux vient également avec le pianiste Nicolas Chevreau d'enregistrer chez Passavant Musique, donc ce très beau disque que je vous recommande qui s'intitule Mélodie et Mélodrame.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis nous retournons tout de suite en Angleterre. Mais alors vraiment la très grande Angleterre, vous avez l'Angleterre qui recouvrait le monde entier, à commencer par exemple par ces marchés persans mis en musique par Albert Ketelbey. Et je me rappelle, j'avais un joli arrangement pour piano, représentant bien sûr un marché persan de cette œuvre quand j'étais petit. Et cette œuvre, elle a traversé le monde sur la musique donc d'Albert Kettelbe, le compositeur de l'Angleterre victorienne, auquel on doit aussi, entre autres, dans les jardins d'un monastère ou encore dans un temple chinois. Et voilà donc cette version qui était celle du Royal Philharmonic Orchestra et des chœurs sous la direction d'Eric Rogers. Mais l'Angleterre victorienne, évidemment, c'est aussi l'opérette et l'opérette de Gilbert et Sullivan. Je vous propose d'écouter des petites collégiennes japonaises parce que décidément, l'Angleterre aime bien se balader aux quatre coins du monde, les petites collégiennes japonaises qu'on entend dans le Mikado. De croire que de dire la 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 aussi vite en chantant, c'est très très difficile. C'était un extrait donc du Mikado de Gilbert et Sullivan par Charles Maqueras, l'orchestre et les chœurs de l'Opéra National de Galles. Ce Mikado satire du Japon qui aujourd'hui encore pose des problèmes diplomatiques parfois quand l'œuvre est représentée. On ne plaisante pas beaucoup de nos jours, il est interdit de se moquer. C'est dommage parce que c'est quand même une œuvre assez géniale de Gilbert et Sullivan, l'Angleterre victorienne de la fin du 19e siècle. Mais maintenant passons à l'Angleterre sirupeuse des orchestres de charme de la BBC entre les deux guerres.
Thank you. If the moon turns green and shadows get up and walk around and clouds come tumbling to the ground, I wouldn't be surprised. 'Cause didn't you fall in love with me? If the stars turn blue and willows that weep begin to sing and winter changes into spring, I wouldn't raise my eyes. 'Cause didn't you fall in love with me? I thought I was foolish to think of romance with someone as charming as you. Thought I was hoping without any chance, but every hope came true. If the moon turns green and rivers begin to flow upstream, and this is all a crazy dream, I wouldn't be surprised. 'Cause anything can happen if you can fall in love with me.
Merveilleux orchestre de Jack Hilton avec la voix sirupeuse, irrésistible de Pat O'Malley. C'était If the Moon Turns Green, un enregistrement de 1935. Et puis, bah, comment terminer autrement qu'avec une de ces chanteuses franco-anglaises qui nous enchante depuis les années 60. En plus, comme il a beaucoup plu au début du mois d'octobre, maintenant ça s'arrange un peu. Et bah, forcément, salut à Petula Clark.
Septembre au moins doux, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue, ouh, la gadoue, la gadoue. Une à une, les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Vivons un peu sous ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changera pas d'ici. Nous garderons nos parapluies. Nous retrouverons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Gadou, la gadou. Il fait un temps abominable. Heureusement, tu as ton imperméable. Mais ça n'empêche pas la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Ouh, la gadou, la gadou. Il fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis.
Petula Clark sur la chanson de Serge Gainsbourg, Petula Clark. Bah, j'espère bien qu'elle va venir à ce micro avant la fin de cette saison en cours. Ce serait pour moi une très grande joie, une façon encore de fêter l'amitié franco-anglaise. S'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duterte préparée par Annie Comier. Aujourd'hui, à la technique José Bernays avec Valentin Bobinet, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, grande joie, très grande joie, puisque je recevrai pour la seconde fois le grand maître de la chanson française, celui que j'aime plus que tout, monsieur Alain Souchon.
À réécouter sur francemusique.fr.